Pendant l'été de 1991, ma mère a battu un homme à mort avec un marteau d'encadrement S-Wing 595 grammes et je suis tombé amoureux de Tess Wolff. Aujourd'hui, bien des années plus tard, toutes les deux ont disparu et je suis seule ici, dans cette jolie clairière au milieu des bois. Seule, sans compter le goudron et l'oiseau et l'autre chose que je ne saurais nommer. Bonjour Alexander Maksik.
Hi, how are you?
Merci beaucoup d'être là ce matin avec nous. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule en français « L'oiseau, le goudron et l'extase » qui est apparu chez Belfond dans une traduction de Sarah Tardy. C'est votre troisième roman après « Indigne » paru chez Rivage en 2013 et qui était dans le palmarès des best-sellers du New York Times à sa sortie. Après « La mesure de la dérive » paru là aussi chez Belfond en 2014 et qui a été finaliste du prix du meilleur livre étranger. Celui-ci, « L'oiseau, le goudron et l'extase » dont je viens de lire l'Incipit, a été nommé meilleur livre de l'année 2016 par le Guardian et le San Francisco Chronicle, pour le dire en très grand français. Bonjour Michel Zotowski.
Bonjour.
J'espère que votre traduction sera meilleure que la mienne. Alexander Maksi, comment on trouve un incipit pareil? Comment on décide d'écrire ces premières phrases et à quoi servent les premières phrases de votre roman?
Je suis arrivé à cette première phrase du roman beaucoup plus tard dans le processus de l'écriture. Ce qui est normal, je pense. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais cette idée d'écrire un roman qui serait quelque part entre un thriller et un roman psychologique qui traiterait de beaucoup de sujets à la fois, qui traiterait à la fois d'un rythme, d'une vitesse de récit, de la même manière qu'un certain nombre de romans policiers, tout en restant dans le royaume de la fiction littéraire, entre guillemets. Donc, la raison pour laquelle j'ai écrit ces quelques lignes du début, c'était pour introduire une notion de tension, tout comme les auteurs de romans policiers ou de thrillers le font, mais aussi parce que ça introduit une sorte de tonalité que je voulais maintenir tout au long du roman.
D'où est parti ce roman, donc, d'une envie de genre littéraire plus que des personnages, des images ou des sujets, Alexander Maksik?
C'est difficile à répondre à votre question parce que c'est arrivé de tellement de manières différentes. Au début, je voulais écrire un roman qui interchangerait les rôles traditionnels d'hommes et de femmes. Bon, quand je dis traditionnel, c'est les rôles classiques que l'on voit dans les œuvres de fiction, au cinéma, où les femmes sont souvent à la maison, attendant leur chevalier, leur mari policier, leur homme qui rentrait du travail à chasser les dragons méchants. L'idée, c'était d'avoir un homme qui serait, si vous voulez, une princesse dans sa tour et une femme ou plusieurs femmes qui seraient les chevaliers, qui seraient ce justicier éloigné, qui serait les cow-boys. Et ça a été toujours quelque chose qui m'a intéressé. Et dans les toutes premières étapes du roman, c'est ce qui m'a amené à écrire le livre. Comment raconter une histoire où les femmes du livre seraient les personnages violents, agressifs sexuellement, plus intéressés par leur propre voyage, leur propre quête, que les hommes eux-mêmes. Et après un certain temps, j'en ai eu assez de lire et de voir des films avec les mêmes dynamiques, les mêmes histoires où les femmes attendent leur homme. Voilà, ça suffisait. Ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est... J'étais intéressé par l'écriture d'un livre où quelqu'un serait atteint d'un mal bipolaire, quelque chose qui m'intéresse de plusieurs points de vue, point de vue d'un romancier, évidemment, suivre le rythme intérieur de quelqu'un qui souffre de ce mal bipolaire, Ils se lèvent tous les matins, ils se lèvent à la même heure, et avec ce passage totalement dans la dépression à quelque chose qui est totalement dans l'enthousiasme, vraiment c'est quelque chose qui suivrait le rythme du langage. C'est un défi pour moi. Mais aussi ça m'intéresse personnellement parce que c'est quelque chose qui touche ma propre famille. Mon grand-père s'est tué, s'est suicidé. Mon oncle s'est tué. J'ai expérimenté moi-même un degré nettement inférieur à celui de Joey, mon personnage, le même désordre. Et pour toutes ces raisons, j'ai commencé.
Ce Joey, qui est donc le narrateur, Alexander Maksik, il lui arrive effectivement un certain nombre de choses, en particulier de sensations qu'il éprouve et qui donnent son titre français. Votre livre en anglais s'intitule « Shelter in Place », mais en français c'est « L'oiseau, le goudron et l'extase ». L'oiseau, le goudron et l'extase, ce sont toutes ces sensations qu'éprouve le narrateur, qui sont des sensations plus ou moins gaies. L'extase, bien sûr, conduit plutôt au bonheur, au plaisir. L'oiseau et le goudron le tirent plutôt vers le bas. Mais c'est avant tout un roman d'amour. Dans les critiques anglo-saxonnes, toutes formidablement excellentes, il faut bien le dire, tous les journalistes font référence à un livre qui parle d'amour, de violence conjugale, de famille et de folie. Est-ce qu'on pourrait dire, même si c'est un peu réducteur déjà, mais que c'est assez juste?
Is it right?
Est-ce que c'est juste?
It's difficult. You know, to be honest.
Ah, c'est compliqué.
I tried, and sometimes
franchement, j'ai essayé et
to ignore the reviews.
En fait, j'ai pas réussi à often, ignorer, à ne pas lire les critiques autant que faire se peut.
The way that a lot of American reviewers,
la façon dont beaucoup de critiques américains voit la littérature, cette façon de voir est réductrice. C'est une approche morale, dans l'évaluation de la littérature, que je trouve très problématique, et ce mélange d'approche morale et une approche très personnelle, où l'écrivain serait inséparable de son œuvre. C'est très très difficile pour moi de comprendre la littérature de cette manière, de comprendre l'art de cette manière. Et en tant qu'écrivain, ce qui m'enthousiasme dans l'écriture, ce qui m'enthousiasme dans l'art, c'est l'absolue liberté que ça nous permet dans des vies qui sont tellement contrôlées par tant de conditions au sein de ma propre petite bulle. Et là, je suis assis devant mon bureau, je peux écrire ce que je veux. Et ma réussite devrait, à mon avis, dépendre entièrement de mon talent, de mon ambition, que je sois ou non capable d'écrire le roman que je souhaite. Mais c'est pas à moi de le dire. Et je sais aussi que ce que je dis maintenant va être pris comme totalement incorrect et comme manquant de sensibilité.
Peut-être est-ce dû aussi, Alexander Maksik, au fait que vous vous attaquiez dans vos romans, je pense au deuxième, qui parlait d'un personnage féminin qui était réfugié. Je pense à celui-là, l'oiseau, le goudron et l'extase, qui parle des relations entre femmes et hommes, avec cette inversion du genre, qui était un sujet éminemment d'actualité. Peut-être donc est-ce dû aussi au fait que vous vous attaquiez à des sujets sensibles ou des sujets dans l'air du temps, et que vos lecteurs, à commencer peut-être par les critiques journalistiques, en tout cas aux États-Unis où vous vivez, eh bien regardent ces sujets-là avec un peu plus d'attention que si vous vous intéressiez à n'importe quoi d'autre, ne pensez-vous pas?
Mais c'est possible, mais j'ai commencé à écrire ce roman en 2012.
Avant l'affaire Weinstein, et ces grandes questions.
Oui, bien sûr, c'était pas une grosse affaire à l'époque. Pourquoi écrire? Pourquoi écrire si ne pas traiter de sujets qui sont provocants? Et c'est pas parce que je suis un homme
influenced. I'm not
in this influencé.
World. I'm not aware of violence against women. It's not as if I'm not aware
que,
of.
C'est pas comme si j'étais pas au courant des violences contre les femmes, que je ne vivais pas dans le monde, que j'étais pas au courant des problèmes qui existent. J'ai écrit un roman sur un migrant parce que j'ai vécu à Paris longtemps et j'ai rencontré des gens qui vivaient dans la rue, des gens qui avaient des histoires comme les protagonistes de mon roman. Pourquoi ne pas écrire au sujet de gens tels que cela? C'est ce qui m'intéresse. On n'a pas besoin d'un roman supplémentaire au sujet d'un blanc qui est inquiet de sa carrière à l'université. On en a plein déjà. Ça ne m'intéresse pas, ce genre de roman. Moi, je veux la liberté. La liberté d'écrire le travail, l'œuvre que je veux créer. Et c'est ça que je trouve le plus enthousiasmant pour moi.
Un roman aussi très fort, Alexander Maksik, vous le disiez, hein, sur l'inversion des situations habituelles au regard des statistiques, des stéréotypes de genre, inversion des positions dans le couple entre l'homme et la femme, Joey qui veut la stabilité du foyer, la tranquillité, le bonheur, et puis Tess, cette femme dont il tombe éperdument amoureux alors qu'ils sont tous les deux étudiants dans les années 90, qui est dans l'action, qui est dans le mouvement, qui est dans le changement. Effectivement, inversion des regards. Mais c'est aussi un grand roman sur le temps. D'abord parce que, précisément, vous le situez dans les années 90. Pourquoi donc, déjà, première question très simple, pourquoi ce temps des années 90?
Mais très simple. Moi, je suis allé en fac à l'université. Dans les années 90, à Washington, dans l'État de Washington, je suis arrivé à cette université où Nirvana a joué Nevermind. Je pensais être véritablement, je me ressentais comme étant vraiment dans ce temps-là. Et le roman a débuté à ce moment-là, quand j'étais dans cette petite ville de l'État de Washington, qui est à l'ouest des États-Unis, où il y avait une prison de sécurité maximum. J'étais cloîtré dans mon petit monde d'étudiants privilégiés. Et pendant ce temps-là, il y avait des hommes qui vivaient dans cette prison. Il y avait des hommes qui étaient exécutés, mis à mort dans cette prison. Donc j'avais un sentiment extrêmement fort de ce monde. Le sentiment du monde physique, des paysages, tout cela était en moi. Et c'est là que j'ai commencé. Mais il est vrai que tout ce que j'ai toujours écrit, tout ce que j'écrirai toujours, ça sera sur le passage du temps et la façon dont le temps et cette perte de la passion de la jeunesse, pour utiliser un cliché. Pour moi, c'est de cela que traite ce roman, principalement. Ce moment où ce feu, ce désir ardent d'agir, de faire quelque chose, peu importe, mais de faire, disparaît soudain. Et comment vivre avec ce problème ? Et est-ce que nous parlons ou pas du désir sexuel ou de l'amour romantique ou de cette foi selon laquelle on peut changer le monde? Quand tout cela est parti, alors comment vivre le reste de nos vies? Et pour Joey, ce sentiment de paix lorsqu'il construit sa maison avec une vue sur les forêts, c'est une sorte de retraite pour lui. Pour lui, bon, ça suffit. Mais Tess, elle ne veut pas laisser aller ces choses-là. Elle ne veut pas abandonner cette vie sexuelle enflammée qu'elle avait dans sa jeunesse. Elle voulait avoir ce sentiment encore qu'elle peut changer le monde, changer sa propre vie. Et c'est là qu'il y a le grand conflit dans ce roman.
Et il écrit, Joey, quelques années plus tard, il écrit quand Tess est partie, vous le dites dès le début, hein, je ne révèle rien, Alexander Maksik, Tess est partie, ses parents sont morts et dans le livre, il les fait revivre, puisqu'il revit aussi ces temps du passé. À la fin, le présent le rattrape et on sent qu'il a, il a envie de ne pas laisser ce passé s'enfuir. Et il dit, que faire ? Est-ce que l'écriture serait comme une tentative d'empêcher la fuite du temps aussi ?
Yes, absolutely. And I think
bien sûr, oui. Pour Joey, c'est... C'est une façon pour lui de conserver son histoire. Et dans le même temps, il est paralysé. Il est paralysé, c'est important. Il ne peut pas aller de l'avant. Donc il vit entièrement dans sa mémoire. Et ce faisant, il y a cette idéalisation de Tess. C'est comme un acte de violence de mettre une femme ou de mettre quiconque sur un piédestal. C'est un acte de violence. C'est une forme de violence. Vous lui refusez l'humanité à laquelle elle a droit. C'est un symptôme de sa propre incapacité à agir, son échec, son manque de courage. Il est coincé. En vivant dans sa vie immédiate. Il n'y a tellement rien dans sa vie actuelle. Il n'y a pas d'amis. Il écrit comme tellement d'écrivains écrivent. Nous écrivons parce que c'est un moyen de communiquer avec des étrangers, avec un étranger, dans l'espoir que nos livres, ou dans le cas de Joey, ces lettres, ces poèmes seront reçus par quelqu'un d'inconnu. Et je crois que, j'y ai pensé souvent d'ailleurs, à l'acte d'écrire, pendant que j'écrivais ce roman, ou ces romans. C'est pas un roman sur l'écriture, mais peut-être que c'est un roman sur la création artistique, d'une certaine manière.
Ce qui explique aussi parfois, Alexander Maksik, la façon dont les phrases sont répétées, comme si Joey voulait insister sur des phrases, des moments, des expressions pour ne pas les lâcher. Les phrases sont brèves, elles sont hachées, les chapitres sont courts, comme s'il était emporté par son élan, son emphase. Et en même temps, comme s'il voulait garder à tout prix ce temps présent. Alors nous, à la radio, vous savez, le temps file. Il est déjà 7h30, on vous retrouve dans 2 minutes, Alexander Maksik, juste après les titres de l'actualité. Présenté ce matin par Marc Bertrand. Bonjour Marc.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. L'Union européenne se déchire sur la question migratoire. L'Italie refuse à nouveau d'accueillir un navire d'ONG venant au secours des migrants. En Allemagne, Angela Merkel est sous la pression de son ministre de l'Intérieur qui menace de fermer ses frontières. Demain, Bruxelles réunit un mini-sommet de 16 chefs d'État pour en discuter, mais les pays du groupe de Visegrad en Europe de l'Est boycottent la réunion. Aux États-Unis, ce sont les enfants de migrants enfermés dans des centres de rétention qui continuent de faire polémique. Des manifestations ont eu lieu cette nuit un peu partout dans le pays. Désormais, on critique plus largement la politique migratoire de Donald Trump qui prône un enfermement systématique des migrants illégaux. Dans les pays de l'OPEP, on s'accorde pour relancer la production mondiale de pétrole d'1 million de barils par an, au plus bas depuis 2 ans. Dans le journal de 8h, interview du spécialiste de l'énergie Jean-Pierre Favennec. Selon lui, la baisse des prix sera très limitée. 212 morts au Nicaragua. Le bilan de la répression des manifestations contre le pouvoir de Daniel Ortega s'alourdit malgré la médiation de l'Église ces derniers jours. Une nouvelle journée de mobilisation de défense du service public aujourd'hui à Paris et dans plusieurs villes en France. Les syndicats et associations dénoncent la casse de la SNCF et la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires sur le quinquennat. Génération Nation, c'est le nouveau nom du Front National des Jeunes. Il va être officiellement traîné aujourd'hui. Dernière étape du grand lifting du parti de Marine Le Pen. Le mouvement de jeunesse revendique 20 000 adhérents. Il va ouvrir une école de cadres pour former les futurs élus du parti d'extrême droite.
Eh bien, tout à l'heure, 8 heures pour le développement complet de ce journal et de ses titres. Marc Bertrand, à suivre d'ailleurs d'ici le journal de 8h. À 7h40, la fabrique médiatique sur la tension entre secret des affaires et droit d'informer, avec Édouard Perrin du collectif Informer n'est pas un délit et Raphaël Gauvin, député En Marche.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Chaque samedi sur France Culture à 16h, la conversation scientifique par Étienne Klein.
La conversation scientifique est un jeu d'ouverture, un exercice de politesse de l'esprit. Chaque samedi, je m'entretiens avec un autre scientifique, ou bien avec un philosophe, un artiste, un écrivain, un alpiniste, un aventurier, plus généralement avec un homme ou avec une femme, et par amour maniaque des chiffres ronds, ça dure pile une heure.
Quelle est la situation des femmes dans le champ des sciences? Y sont-elles devenues des égales des hommes? Et si la réponse est non, comment changer la donne? Avec la députée Céline Calvez et la physicienne Michèle Leduc, invitée d'Étienne Klein, ce samedi à 16h et sur franceculture.fr.
On retrouve notre invité Alexander Maksik, auteur de L'oiseau, le goudron et l'extase, roman américain qui vient d'être édité en français aux éditions Belfond dans une traduction de Sarah Tardy. Alexander Maksik, j'aimerais qu'on revienne à cette question des violences conjugales et de la façon dont, dans votre roman, les choses sont extrêmement intéressantes parce que vous renversez toutes les perspectives et vous donnez quand même à entendre un certain nombre de points de vue très différents. La mère donc, et c'est l'ouverture du livre, la mère de Joey, le narrateur, a donc tué un homme sur un parking en assenant 7 coups de marteau sur sa tête parce qu'il venait d'avoir des gestes extrêmement violents à l'égard de sa femme et de ses enfants. La mère de Joey est enfermée dans une prison et elle est perçue tantôt comme un monstre, parce que 7 coups de marteau c'est pas rien, tantôt comme une justicière, mais au bon sens du terme, pour beaucoup de femmes, un modèle à suivre, une icône. C'est la question qui parcourt tout le livre. Est-ce que vous vous êtes accordé de porter un jugement, un avis sur le geste de la mère? Est-ce que vous avez rencontré des femmes qui ont agi comme cela pour écrire le livre ou des associations de femmes qui sont prêtes à la violence et qui mettent dans leur bouche les mots qu'utilise la mère de Joey dans le livre? Est-ce que, en quelque sorte, vous vous êtes servi de la réalité pour écrire votre ouvrage?
Non, c'est pas un récit basé sur un événement ou un moment particulier réel. Non, j'essaie très fort de ne pas juger mes personnages. Votre question est intéressante, évidemment. Mais ma tendance, je suis totalement opposé à la peine de mort et cette violence aveugle dans les rues. Mais à un certain point, quand un système échoue, il est important d'agir à un certain moment. Et je ne la considère pas comme le mal absolu. Je la considère comme un être humain qui a vu vraiment de première main, si j'ose dire, ce type de violence. Et en tant qu'infirmière, elle l'a vu de très nombreuses reprises. Elle a vu comment un système échoue. Et c'est quelque chose qui m'a frappé personnellement depuis que je suis très jeune. Je ne sais pas pourquoi j'ai été tellement susceptible et j'ai était tellement effrayé par des gens violents, brutaux, des gens qui utilisent leur pouvoir physique, qui utilisent leur violence pour attaquer et humilier des gens beaucoup plus faibles qu'eux. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est quelque chose qui m'a fait peur depuis que j'étais très très jeune et qui m'a rendu très en colère depuis que j'étais très jeune. Et même en allant dans les rues de Paris, là, on voit ce type de comportement. Et c'est quelque chose, partout où je vais, vraiment, ça m'attaque, ça m'énerve.
Alors là, vous n'êtes pas du tout comme votre personnage, comme quoi, effectivement, hein, vive la fiction aussi, puisque Joey, Alexander Maksik, votre héros, raconte que jusqu'à ce que Tess, son amoureuse, lui raconte des histoires de sexisme, de harcèlement, enfin, ce que c'est qu'être femme, eh bien, il ne s'était jamais posé la question. Vous écrivez que Joey a découvert, je vous cite, « cette litanie de violences petites et grandes, cette différence de quotidien flagrante, la peur intégrée et constante. Il n'y avait jamais pensé avant que Tess ne le lui en parle. » Eh bien non, chez vous, vous dites vous avez grandi avec ça. Vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous avez grandi avec ça, déjà tout petit.
Well, yeah, I have a mother who is, I think, more like Tess than Joey.
Mère qui est plus genre Tess que comme Joey, plus comme Anne-Marie que comme son mari. J'ai été élevé avec un certain respect pour un certain type de femme, pour un certain type de personne, en fait. Je suis dans tous ces personnages, évidemment. Je ne suis pas vraiment comme Joey, mais il y a certainement des parties de moi dans Joey, des parties de Joey dans moi. Je ne sais pas comment le mettre en phrase, mais...
Vous parliez, Alexandre Maxic, des rues de Paris, puisque là, nous sommes à Paris et que vous y êtes pour la promotion de la parution de votre livre en français. Qu'en est-il à Hawaï, où vous vivez, puisque vous vivez à Hawaï? Est-ce que on se sent aux États-Unis quand on est à Hawaï, archipel d'île américaine, hein, mais est-ce que l'insularité donne un caractère à part?
Yes, I mean, living in Hawaii often feels
vivre
very
à Hawaï,
much like I'm living in another country.
Bah, c'est comme si je vivais totalement dans un autre pays. Et ça devrait être un autre pays. Comme il en est aussi pour les États-Unis en eux-mêmes. Mais ça sera pour un autre moment. C'est un endroit très compliqué. Ça a ses avantages, c'est des avantages bien entendu. Sur le plan culturel, c'est très intéressant, très complexe. Ce que j'aime dans le fait d'être à Hawaï, c'est que les gens sont un mélange de tellement de populations, d'influences de tant de cultures différentes. C'est pas aussi simple que ça, mais j'aime bien, en tant qu'homme blanc, être en minorité là-bas. De voir un mélange de japonais, chinois, polynésiens, portugais, etc. Tous ces gens-là sont venus faire ce qui me frappe comme étant un peuple très beau.
Eh bien alors, c'est une très très bonne idée de vivre là-bas. À Hawaï. C'est aussi une très très bonne idée d'avoir situé votre livre Alexandre Maxic dans l'état de Washington, puisqu'il ne se passe pas à Hawaï. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous voir au matin du samedi. L'oiseau, le goudron et l'extase, un livre paru chez Belfond. Je remercie bien entendu Michel Zlotowski pour l'interprétation simultanée de vos propos. Grand merci.
Merci, thank you very much.